souhaiter la bienvenue et vous dire que je suis très très honorée et heureuse que l'association des amis de Stella et Henri Corbin ait accepté que cette année, cette journée se déroule donc à INALCO. Je voulais aussi vous dire que je suis particulièrement émue en fait que cette année soit consacrée à cette relation entre Henri Corbin et Gilbert Durand, puisque tous les deux ont été, en plus de quelques autres, les maîtres à penser de ma thèse d'université. Quand j'ai travaillé sur Romy, véritablement, ils m'ont inspiré, ils ont donné la structure générale à ma thèse, et m'ont appris surtout à lire les textes. Mais je ne m'étendrai pas plus longuement là-dessus, parce que je voudrais tout de suite donner la parole à Françoise Bonnardel, qui est allée de philosophie, docteur d'État et professeur émérite à l'Université de Paris 1, où elle a enseigné la philosophie des religions. Spécialiste des doctrines de l'hermétisme, de l'alchimie, mais aussi du bouddhisme et de beaucoup d'autres choses. Et peut-être que le fil rouge de tout son travail, c'est précisément ce dont elle va nous parler tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elle travaille à tout ce qui permet peut-être de regarder le monde autrement qu'avec le regard du nihilisme. En tout cas, elle a publié beaucoup d'ouvrages, je vais juste citer les derniers. Triptyque pour Albrecht Dürer, La conversation sacrée. On voit que l'image, évidemment, d'ici a un rôle très important. Vous avez beaucoup, beaucoup travaillé sur la question de l'image. Des héritiers sans passé, essai sur la crise de l'identité culturelle européenne. Là, c'est peut-être moins l'image, mais c'est beaucoup plus ce combat, cette réflexion, je dirais, sur la question du nihilisme face à la pensée spiritualiste. Et puis aussi, bouddhisme tantrique et alchimie, dans lequel là, on voit la spécialiste de bouddhisme rejoindre la spécialiste de l'alchimie. En tout cas, je vous remercie de nous parler ce matin de Gilbert Durand, Henri Corbin, un pacte chevaleresque face au nihilisme.
Merci. Je remercie Lydie Anzard pour sa présentation et je ne m'attarderai pas évidemment sur ce qu'a représenté dans ma vie personnelle et académique la présence de Gilbert Durand. Puisque je crois que mon propos y suffira et que c'est à travers cette réflexion sur la chevalerie spirituelle que je pourrai lui rendre l'hommage qui lui revient en cette période anniversaire, comme l'a rappelé son épouse. Alors, si loin que je remonte dans le temps, et ma relation avec Gilbert Durand est fort ancienne, il me semble avoir toujours vu sur l'un des murs de la pièce où il travaillait, dans sa belle demeure savoyarde, la gravure de Dürer, Le chevalier, la mort et le diable, la gravure de 1513, si largement agrandie que le chevalier et ses sinistres acolytes semblaient être devenus les partenaires bien réels d'un questionnement quotidien qui a d'ailleurs continuellement traversé durant 5 siècles l'imaginaire européen. Qui est vraiment ce cavalier taciturne et où s'en va-t-il? Qui, de la mort ou du diable, attend de l'autre son butin? Je suis donc tentée d'imaginer que, comme tant d'autres penseurs avant lui, Nietzsche, Wagner, Thomas Mann, Junger, Gilbert Durand s'était donné pour compagnon de route cette figuration de la bravoure, en parfait accord avec l'engagement héroïque qui fut le sien dans la résistance, puis sur d'autres fronts tout aussi clandestins. Mais cela aurait-il suffi à faire de lui un chevalier spirituel, en étroite connivence de pensée et d'action avec son ami Henri Corbin? Rien n'est en effet si simple, ni quant à l'interprétation de la gravure de Dürer, qui à l'évidence n'est pas ici l'objet de mon propos, ni surtout quant au rôle joué par la pensée de Corbin dans l'évolution de la posture héroïque de Durand affirmant dans les structures anthropologiques de l'imaginaire, paru en 1960, que, je cite, « le pur héros, le héros exemplaire, demeure le pourfendeur de dragons ». Est-ce donc le nihilisme, dont l'identité demeure tout aussi énigmatique que celle de la mort représentée dans la gravure de Dürer, qui fait figure de dragon dans la geste chevaleresque commune à Durand et à Corbin? N'est-ce pas plutôt la monstruosité singulière du nihilisme, dont Nietzsche disait qu'il était le plus inquiétant de tous les hôtes, qui contraint le héros à une reconversion, voire à une transmutation de sa vaillance guerrière? En d'autres termes, le passage de l'épopée héroïque à l'épopée mystique et gnostique suppose-t-il toujours une mise à mort symbolique du héros, telle celle de Siegfried, si dramatiquement décrite par Jung dans le Livre Rouge, en tant que sacrifice suprême dû au principe d'individuation? La manière même dont Durand parle dans certains de ses écrits de l'univers dans lequel évolue le chevalier de Dürer nous fournira peut-être à ce sujet quelques indices significatifs. Dans une conférence prononcée en 1965 à Eranos, où l'a introduit en 1964 Henri Corbin, conférence ensuite reprise dans Figures mythiques et visages de l'œuvre en 1979, Gilbert Durand dit en effet reconnaître, dans l'œuvre de Dürer, l'expression magistrale du régime diurne de l'imaginaire, dont la dominante héroïque et polémique, symbolisée par le glaive, se trouve exaltée par le trait incisif du grand allemand, dont l'univers graphique mettrait ainsi en scène un climat de dualisme exacerbé, trouvant son apothéose dans l'Apocalypse gravé en 1497-98. Je cite Durand, le texte de cette époque. « Toute l'œuvre de Dürer est donc, par ses thèmes, son style, son régime, une méditation plastique sur la violence, une sorte d'épiphanie des servitudes et grandeurs du combat. » Si donc Durand qualifie également cet univers de saturnien, c'est davantage en raison de sa sécheresse et de sa minéralité que du pouvoir de transformation inhérent à la noirceur saturnienne et bien connu des alchimistes. À la scène elle-même, dont le déchiffrage reste aujourd'hui encore incertain, Durand s'intéresse finalement moins qu'à l'atmosphère, au climat spirituel entourant le chevalier, en qui il dit voir une figuration héroïque de la violence guerrière, alors même qu'il n'a d'autre arme à la main qu'une lance portée de manière bien plus offensive, qu'il devance le diable au faciès porcin et se montre indifférent au regard séducteur de la mort. Ce n'est pourtant pas en affrontant cette énigme que Gilbert Durand va quelques années plus tard rectifier cette première interprétation, mais en transposant la totalité de la scène dans un autre registre spirituel au sein duquel le chevalier errant cesse d'être un héros solaire et revêt désormais les traits de Parsifal, celui de Wagner plus précisément. Je cite ce passage de Beaux-Arts et Archétypes, publié en 1989. Le chevalier inflexible devant la mort, qui lui présente le sablier du devenir, insensible aux démons à la face de sanglier portant une faux saturnienne, le chevalier enfermé dans son calice d'armure, tenant haut sa lance, avance sur son fier cheval, que nous pourrions appeler Graham en pensant à Siegfried, avec à ses côtés la grande fidélité de son chien, chien fidèle tel celui qui repose au pied du tombeau de son maître à Wanfried. Wagner, bien sûr. Le chevalier aussi œuvre son chemin, son Graal, selon la recommandation de Gournemans. De l'épopée chevaleresque parce qu'héroïque, c'est la version, disons, des structures anthropologiques, Durand est donc passé lui aussi, tout comme Chorabardi et les platoniciens de Perse, à l'épopée mystique et gnostique. Et dans la conférence sur le climat légendaire de la chevalerie, prononcé à l'université de Saint-Jean de Jérusalem en 1983, Durand ne fait plus du mythème héroïque, c'est-à-dire du combat contre le monstre, que le premier des cinq mythèmes, composant à ses yeux le mythologème chevaleresque, intégrant cette fois-ci les thèmes fondamentaux de la gnose révélée par Corbin. Corbin, et Durand l'interprète en ces termes, il parle alors de cette superbe chevaleresque qui a toujours fièrement affirmé que l'âme était directement conjointe sans le secours d'une cléricature, mais par la seule Ecclesia Imaginalis au Saint-Esprit, à Notre-Dame Saint-Esprit. On voit le changement de registre qui s'est effectué entre ces deux périodes. C'est donc cette transformation qui va retenir notre attention. Était-elle en germe dans les premiers ouvrages de Durand, ou est-elle le fruit de son adhésion enthousiaste à la pensée de Corbin? Mais cette pensée aurait-elle eu autant d'impact sur lui si elle n'avait conforté, galvanisé un ensemble de refus qui étaient déjà les siens à l'endroit de ce que condense à ses yeux la notion même de nihilisme, dont il dira en 1978, en parlant des années d'après-guerre, tous les systèmes philosophiques du vieil Occident fratricide étaient en faillite. Goulag émergeait de l'horreur derrière Auschwitz. Seuls les nihilismes existentialistes puis structuralistes jetaient leur feu désespéré ou insignifiant. Donc venons-en donc à cette influence supposée, en tout cas à nuancer, de la pensée de Corbin sur celle de Durand. Préfaçant en 1963 la seconde édition des structures anthropologiques de l'imaginaire, Gilbert Durand qualifiait d'entrée de jeu l'imagination créatrice dans le soufisme d'Ibn Arabi, paru en 1958, de magistrale métaphysique de l'imaginaire. Confirmant l'orientation majeure de ses propres recherches, et Durand plaçait de ce fait même sa relation intellectuelle et personnelle avec Henri Corbin, rencontré la même année, sous le signe d'un synchronisme dont il ne cessera d'affiner la portée anthropologique. Alors, si je dis synchronisme et non pas synchronicité au sens jungien du terme, c'est que Durand se montre à l'époque moins attentif à un événement de l'âme bouleversant que conscient de devoir s'interroger plus avant qu'il ne l'a fait jusqu'alors sur la nature de l'espace et du temps, rendant possible et manifeste un tel parallélisme. J'oserais presque dire un tel isomorphisme compte tenu de la récurrence de ce thème dans les structures anthropologiques de l'imaginaire. Or, Corbin écrira quelques années plus tard de ce synchronisme, dont il a lui aussi constaté l'existence, par exemple entre les amis de Dieu occidentaux et les mystiques iraniens. C'est un des exemples les plus souvent cités par Corbin. Donc, de ce synchronisme qu'il règle, je cite, un champ de conscience dont les lignes de force nous montrent à l'œuvre les mêmes réalités métaphysiques. Saurait-on mieux dire, quant à son compagnonnage chevaleresque avec Gilbert Durand, dont Jung aurait peut-être pensé qu'il était constellé par un même archétype? Si la notion de chevalerie spirituelle n'est pas encore à l'époque évoquée par Durand, ce synchronisme en esquisse la possibilité, en convoque implicitement la nécessité, dans la mesure où cette connivence secrète ne relève ni d'une décision personnelle, entérinant des choix intellectuels, ni d'affinités électives irrésistibles, mais du sentiment d'appartenance à une même famille d'esprit, une famille archétypale, dit-il alors, dont le cercle très fermé d'Eranos allait au fil des années renforcer les liens. Durand écrit « Nous constituions une sorte de réserve où un jour prochain l'Occident pourrait puiser son renfort. » Or, écrivant cela, Durand confirme son identité de vue avec Corbin, disant des chevaliers réunis autour de l'imam caché, « Ils sont le rempart invisible » qui préserve la masse humaine à son insu de la catastrophe. C'est ça l'essence même, je crois, de la chevalerie spirituelle. À supposer évidemment que la catastrophe, à savoir le nihilisme, n'ait pas déjà eu lieu, comme le pensait Heidegger. De cette fraternité invisible, James Hillman écrira lui aussi, pensant tout particulièrement à Gilbert Durand, « Quand nous travaillons, chacun de notre côté, il y a le corps invisible des compagnons. Nos mots écrits pour le cercle Eranos, qui n'est pas vraiment un cercle, ou alors un cercle imaginal qui comprend les morts, un cercle qui nous lie à l'imaginal. La présence imaginale de chacun de nous du fait de l'absence concrète mutuelle, la fidélité aux morts, la noblesse de l'aventure, son ironie, sa chevalerie. Une sorte de corps spirituel, en somme, confirmant l'existence secrète mais puissamment opérative de ce que Corbin nommait « Église invisible ». Je me garderai donc de parler d'influence de Corbin sur Durand, tant ce qui s'est passé au sein d'un tel cercle à Ascona et ailleurs déborde très largement le cadre des relations causales et témoigne de l'existence d'une dynamique spirituelle commune très proche de celle mise en œuvre au sein d'un mandala, dont Corbin dit d'ailleurs, j'étais surprise de trouver cette image du mandala apparaître dans les textes dont le contexte n'appelle pas a priori cette image, eh bien du mandala, dit Corbin, dit, c'est ce mandala qu'il convient alors de méditer pour retrouver la dimension du Nord dans sa puissance symbolique, puissance telle qu'elle ouvre le seuil de l'au-delà. Et si l'idée de catalyse qui a été avancée par Manuel Quinon paraît judicieuse en ce qui concerne la réaction chimique, j'irais pour ma part jusqu'à dire alchimique, produite par les écrits de Corbin sur la pensée de Durand. Il semble par contre peu probable, du moins à mon sens, que, je cite Manuel Quinon, que le système cosmologique cohérent et structuré apporté par ses écrits, par les écrits de Corbin, ait suffi à guérir Durand de son positivisme, et je mets évidemment le mot entre guillemets, de son positivisme initial et de son matérialisme supposé, si ses propres recherches n'avaient recelé les germes de cette transformation, répondant qui plus est en lui à un désir profond. Qu'est-ce en effet que le positivisme, contre quoi Durand n'a cessé de ferrailler, tout comme Corbin d'ailleurs, mais dans un autre registre plus anthropologique? Qu'est-ce que c'est? Une approche réductrice des choses et des faits, fondée sur une radicale séparation du sujet et de l'objet, rendant impossible tout engagement d'ordre gnostique, puisqu'on attend des faits, supposés tous objectivables, qu'ils déterminent ou au moins orientent la conduite à tenir sur d'autres plans, éthiques et religieux en particulier, que celui où ils ont été observés, répertoriés, classés à des fins statistiques. D'où la pusillanimité de nombre de savants, chaque fois qu'ils sont confrontés à des choix ne découlant pas directement de leur savoir, ou leur bavardage souvent inconsistant, quand ils se piquent de philosophie et exposent ce qu'ils croient. C'est au fameux titre « Ce que je crois ». Tout positivisme accroît de ce fait le divorce entre savoir et croire, que toute gnose s'emploie par contre à minimiser ou à combler. Durand ne pouvait donc pas ne pas reconnaître en Corbin le précurseur dans son domaine propre du nouvel esprit anthropologique qu'il entendait de son côté promouvoir dans le sillage de Gaston Bachelard. Si le rejet de toute forme de positivisme leur fut très tôt commun, c'est incontestablement Corbin qui a le premier décelé dans l'herméneutique spirituelle de Tawil, telle qu'elle fut pratiquée en islam iranien, le possible fer de lance du combat contre le nihilisme. La question étant de savoir comment cette herméneutique, réservée à une élite spirituelle œuvrant dans le plus strict incognito, pourrait trouver un écho occidental qui ne soit pas lui-même si ésotérique qu'il n'ait aucun impact culturel. Peut-être, je rejoins peut-être sur ce plan-là le propos à venir de Jean-Jacques Vuillaine-Bourget. Car en ramenant ainsi l'ésotérisme dans le giron de l'herméneutique, dès lors doté d'un statut philosophique et théosophique, Corbin entendait réorienter la philosophie occidentale, là où Durand, plus pessimiste quant à sa survie, ambitionnait surtout de redonner à l'anthropologie la profondeur et la complexité qui lui manquaient. Est-ce à dire que l'anthropologue ne puisse pleinement prétendre au titre de chevalier, n'étant pas un sage de Dieu, autrement dit un théosophe? Ou bien qu'il puisse davantage y prétendre en raison de sa vaillance, de sa combativité, que de sa connaissance des secrets divins? Est-ce même la vocation de l'enquête anthropologique de se transformer en quête gnostique? Autant de questions conduisant à mon sens à distinguer d'entrée la dimension visionnaire de la chevalerie spirituelle telle que l'islam iranien autorise à la pensée, de la vaillance caractérisant l'état de chevalier dont Corbin écrit qu'il n'est ni celui du clerc ni celui du laïc, tout en tenant de l'un et de l'autre, mais en un sens purement spirituel. Quoi qu'il en soit, la manière même dont Gilbert Durand a opéré la classification des images, conduisant à la mise au jour des trois structures de l'imaginaire, je les rappelle, diurne, nocturne mystique et nocturne synthétique, n'a rien de positiviste, et laisse par ailleurs entière la possibilité d'une évolution de l'une à l'autre au cours d'une vie, évolution pouvant dès lors correspondre à ce que Jung nomme individuation. Et cela même si l'image est accueillie pour elle-même en tant que pure épiphanie d'un sens préexistant et non comme produit plus ou moins trouble de l'inconscient. Aussi, la phénoménologie, ainsi mise en œuvre grâce à l'accueil spontané des images, donne-t-elle d'emblée au structuralisme durandien la dimension figurative qui le distingue des structuralismes formels en vogue à l'époque? Qui dit figure, dit en effet présence, ou plutôt présentification d'un sens dont l'herméneutique des symboles opère un dévoilement nécessairement récurrent. Car si le symbole est toujours, dit Durand, l'épiphanie d'un mystère, c'est aussi parce qu'il est un signe, dit Durand, éternellement veuf du signifié. Or, c'est justement ce jeu entre présence et absence qui va permettre le rapprochement avec la gnose, connaissance salvatrice déjà évoquée dans l'imagination symbolique de 1964, à travers les travaux de Puech et de Corbin. Mais ce rapprochement n'aurait sans doute pas été possible non plus sans le rôle médiateur reconnu par Durand au Chem, artisan du possible passage entre les dominantes posturales, je n'entre pas ici dans le détail bien sûr, et les productions imaginatives, et dont la fonction autorise à penser qu'il est la préfiguration psychophysique des transitions hermésiennes, enfin disons-les hermésiennes, dont la pensée de Corbin montre toute l'importance quant à la sauvegarde d'un univers hiérarchisé et d'un mode de pensée non dualiste dont Durand trouvera l'équivalent dans l'hermétisme occidental. Aucun modèle cosmologique n'aurait pu d'autre part à soi seul jeter un pont entre, je dis bien un pont, pas plus, entre l'imaginaire durandien et l'imaginal corbinien si Durand n'avait d'entrée affirmé à la fin des structures que la fonction fantastique constitue, je le cite, une réserve infinie d'éternité contre le temps. Et cela dans la mesure où elle se déploie dans un espace qui euphémise l'angoisse de la mort due à la corrosion du temps. Favorisant à la fois le sentiment d'appartenance et le distancement maîtrisé par rapport aux images dont il est le lieu d'apparition, cet espace n'est certes pas l'équivalent du mundus imaginalis qui permet, mais permet d'en entrevoir la possibilité. Et Durand ne serait pas revenu avec tant d'insistance sur la phrase sibylline placée par Wagner dans la bouche de Gurnemann « Ici, mon fils, le temps devient espace » si cette ultime métamorphose n'avait à ses yeux conforté ce qui constitue la thèse même des structures anthropologiques de l'imaginaire, à savoir la possible euphémisation du temps et de la mort par l'imaginaire, dont le déploiement suppose l'existence d'un espace visionnaire irréductible à la res extensa cartésienne et dont la spontanéité créatrice a déjà ceci de chevaleresque, je mets évidemment le mot entre guillemets, qu'elle sauve l'honneur humain en la personne des poètes. Je cite Durand, car la véritable liberté et la dignité de la vocation ontologique des personnes ne repose que sur cette spontanéité spirituelle et cette expression créatrice qui constitue le champ de l'imaginaire. Et ça, c'est dès les structures qu'il dit cela. Il y a, à mon sens, en germe, là, à travers cette sauvegarde de la dignité poétique de l'homme, ce qui va permettre, à mon avis, le lien avec la pensée de Corbin. Dans un premier temps, initié à cette spatialité par Bachelard, la poétique de l'espace, bien sûr, Durand en trouvera chez Corbin l'amplification grandiose, non sans avoir auparavant conclu en des termes déjà très corbiniens, c'est l'homogénéité de l'espace qui prend source dans la volonté ontologique d'identité, dans le désir de transcender le temps et d'euphémiser le changement en un déplacement pur qui ne dure ni n'affecte. Comment être moins positiviste que cela ? Car en reconnaissant que le désir d'éternité est dans le désir d'éternité et dans la volonté d'identité, l'identité spirituelle bien sûr, ce qui sous-tend l'enquête anthropologique, sans constituer pour autant un obstacle épistémologique, Durand opte bel et bien déjà pour ce qu'il nommera plus tard la figure traditionnelle de l'homme, à la fois toujours jeune et très archaïque, dont le chevalier spirituel est justement l'idéal type. Je reprends l'expression de Max Weber. Corbin écrira de son côté de la juvénilité propre au chevalier de la foi. Il parlera d'une jeunesse sur laquelle le temps n'a pas de prise, car elle est justement une reconquête sur le temps et ses scléroses. Or, cette idée, Durand l'exprime dès la fin des structures anthropologiques. La difficulté me paraît donc moins de reconstituer la filiation profonde qui permit à la pensée du Durand de s'enrichir de celle de Corbin, et réciproquement dans une moindre mesure, que de mettre le doigt sur l'articulation entre vision du monde et engagement chevaleresque, sachant que tout déséquilibre entre les deux risque d'entraîner soit le triomphe d'une sorte de positivisme spirituel quand une vision du monde devenue hégémonique prédétermine l'engagement personnel au détriment de l'herméneutique spirituelle permettant de s'en approprier le sens, soit celui de l'idéologie quand des convictions fortes s'emparent d'une vision pour la faire accoucher de la nécessité et de la légitimité d'un tel engagement. Or, c'est bien à ce carrefour que Durand le résistant, le militant ferraillant dès ses premiers écrits contre l'université, l'église catholique, l'intelligentsia parisienne, a rencontré Corbin, qui lui apportait la vision totalisante mais non totalitaire, susceptible de tenir en échec le nihilisme. Je fais donc pour ma part l'hypothèse que la lutte contre le nihilisme ait été le catalyseur de la relation chevaleresque Durand-Corbin, induisant de part et d'autre la recherche d'un équilibre entre cosmologie et dramaturgie personnelle. Il est en effet improbable qu'un système cosmologique, si subtil et complexe soit-il, et Dieu sait si les systèmes cosmologiques légués par l'islam iranien le sont, puisse à soi seul justifier le passage, toujours très personnel, de l'état de savant à celui de gnostique et plus encore de chevalier. Le risque étant même d'en arriver à penser que l'existence d'un tel système puisse délivrer l'homme de l'incertitude et de la responsabilité propre à tout choix, d'ordre éthico-spirituel, dont Corbin affirme, comme le fit avant lui Kierkegaard, qu'on ne peut l'esquiver et qu'il est décisif, Corbin ajoutant « l'herméneutique ne fait que le dévoiler ». C'est aussi pourquoi, selon Corbin, le sentiment d'appartenance à la famille d'esprit des gnostiques relève au départ d'une option philosophique dès avant la démarche herméneutique, et non d'un quelconque déterminisme ou même d'une révélation subite. Je cite à nouveau Corbin, « Nulle puissance au monde ne peut empêcher une âme de se donner l'ascendance spirituelle qu'elle choisit et de légitimer cette ascendance par la fidélité à ce qu'elle implique. » Circularité donc, voire anachronisme récurrent, puisque la fidélité à la famille d'élection devient en retour la garante de la valeur du choix consenti. Fidélité et non contrat ou force de l'habitude, tant il est vrai qu'une âme bien née, ou plutôt renée d'un tel choix, ne peut être fidèle à n'importe qui, à n'importe quoi. Contrairement à une idée reçue, la famille spirituelle, au sein de laquelle prend forme et sens le pacte chevaleresque, n'est pas une famille d'adoption venue compenser les travers ou les insuffisances de la famille biologique. Il ne s'agit pas de s'inventer une autre histoire, mais de subvertir, grâce à l'appui de cette famille, le cours même de l'histoire, la sienne et celle du monde, et de mettre ainsi en œuvre ce que Corbin nomme le principe d'arrachement, du passé au passé. Disant cela, Corbin pose plus clairement que Durand les bases du pacte chevaleresque, aussi indépendant des féodalités temporelles que des savoirs théoriques qui en corromperaient la rigoureuse pureté. Et c'est bien pourquoi la chevalerie spirituelle n'est pas une idéologie guerrière sublimée, comme l'a rappelé avec force Christian Jambet, disant « L'éthique du chevalier spirituel emprunte à la chevalerie quelques-uns des impératifs reçus de l'idéologie féodale, mais c'est pour exprimer des besoins spirituels qui ne sont en rien la simple expression de cette idéologie. En vérité, il ne s'agit pas ici d'une chevalerie qui se spiritualise, mais d'une forme de spiritualité qui se perçoit elle-même comme une chevalerie. Il ne suffit donc pas de distinguer expérience visionnaire et vaillance chevaleresque, comme je l'ai fait précédemment, sans avoir à prendre aussi en compte le fait que si la chevalerie spirituelle parachève l'édifice métaphysique de la révélation, comme le dit Jambet, le pacte qui lui a nécessairement préexisté fonde la possibilité de cet accomplissement. Et je serais pour ma part tentée de rapprocher, sans approfondir bien sûr, ce pacte chevaleresque du vœu tel que l'a formulé Massignon par rapport au destin, les deux étant appelés à ne plus faire qu'un. Mais en l'attente du paraclet, c'est le pacte qui, scellant l'appartenance à une famille spirituelle, prémunit le chevalier potentiel des dérives héroïques et guerrières, imputables à sa seule vaillance. S'il y a donc bien choix, il s'agit en l'occurrence de l'accord préalable donné par une âme à ce qu'elle pressent être son destin. Ainsi Gilbert Durand n'a-t-il pas attendu d'avoir rénové l'anthropologie et d'être parfaitement éclairé sur la gnose chiite pour prendre les armes quand il le fallait. Et c'est probablement pour avoir été très jeune confronté au visage terrifiant du nihilisme que fut le nazisme qu'il fut ensuite si réceptif aux promesses spirituelles portées par les gnostiques iraniens. Tout comme Durand rejetant le positivisme et toute forme de réductionnisme avec autant de clairvoyance qu'il avait combattu l'idéologie nazie, c'est avec un radicalisme, cette fois-ci tout luthérien, que Corbin dit refuser de subordonner sa destinée spirituelle à l'état actuel du monde, livré au nihilisme. Le nihilisme, écrit Corbin, advient lorsque l'homme perd conscience de sa responsabilité, de la responsabilité de ce lien, et proclame avec désespoir ou avec cynisme que sont closes les portes qu'il a lui-même fermées. Si c'est bien avec ce refus que commence la lutte, rien pourtant dans le refus ne dit encore la forme que devra prendre le combat, surtout lorsqu'il s'agit d'un adversaire aussi insaisissable que le nihilisme européen. C'est en tout cas un premier trait commun à Durand et à Corbin d'avoir refusé de voir dans le nihilisme une fatalité devant laquelle s'incliner au nom du déterminisme historique, ou du réalisme sociologique, mais d'y reconnaître un adversaire, voire l'adversaire, avec un grand A, contre qui engager le combat. L'un et l'autre prenant de ce fait le risque d'entrer en lutte frontale contre un ennemi omniprésent, certes, mais de par sa nature même aussi glissant que l'était au regard de Platon le sophiste. C'est aussi pourquoi, parmi les options philosophiques susceptibles d'inverser le cours des choses, figure en tout premier lieu celle de favoriser l'accueil du sens chaque fois que cela s'avère possible, et de ne pas attendre du savoir qu'il fasse forcément sens, le savoir n'accédant au rang de gnose que s'il recèle une herméneutique dont la portée se révèle pour l'âme sotériologique. Corbin écrit « L'épopée mystique surgit au moment où la doctrine, la gnose, devient événement personnel et ne peut plus être dite qu'en récit. » Corbin parle alors de récital. Distinguant de son côté dans l'imagination symbolique les herméneutiques réductrices et les herméneutiques instauratives, Durand engageait lui aussi le fer contre tout un pan de la culture postmoderne et affichait un désir de sens qui allait le rapprocher de Corbin. Que le sens n'apparaisse qu'à celui qui en désire ardemment l'advenu, certitude très tôt commune aux deux compagnons d'armes, reste le grand paradoxe herméneutique dont se sont détournés les modernes, et a fortiori les postmodernes, préférant ne voir là qu'une stérile tautologie ou l'illusion d'un sujet projetant sur la réalité ses désirs insatisfaits. Une telle certitude installe pourtant d'entrée les deux penseurs dans un univers spirituel proche de celui de la chevalerie médiévale, où ce qui fait événement n'est presque toujours incidemment de la fidélité d'un désir et plus rarement de l'histoire racontée dont la trame se révèle souvent décousue et finalement anecdotique au regard de l'aventure née de ce désir. Aucune aventure n'est à cet égard plus chevaleresque que la quête du Graal, qui allait évidemment retenir l'attention des deux penseurs et illustre de manière particulièrement éclairante la manière dont les rôles se sont trouvés répartis entre eux en vertu du synchronisme déjà évoqué, semble-t-il plus que d'une décision délibérée. Durand, lestant d'une documentation anthropologique considérable les expériences visionnaires rapportées par Corbin, qui, tout en s'intéressant au symbolisme du Graal, voit prioritairement dans sa quête le foyer commun autour duquel réunir les gnoses occidentales et orientales, constituant à ses yeux une, je cite, une lignée mystique de gardiens du trésor caché, ayant à son sommet celui qui est le pôle mystique du monde. Or, c'est justement à ce symbolisme que Durand accorde la priorité. L'apport de Corbin, se mesurant à la manière dont la description, somme toute encore extérieure de l'objet sacré figurant dans les structures anthropologiques de l'imaginaire, va peu à peu se creuser pour accueillir l'interpellation suscité par le vase mystique. Il ne faut surtout pas chercher à expliquer le Graal, dit Durand, mais se demander ce qu'implique le Graal dans la constellation toujours ouverte de ses apparitions. Mais sans doute ce creusement sémantique n'aurait-il pas été possible si ce vase, qui est aussi vaisseau, nef, calice, n'avait été d'entrée perçu comme un creux propice à l'accueil, dont Durand disait dès 1960 qu'il cumule l'intimité du vaisseau et l'intériorité du temple. Non contente de préfigurer ce que Durand théorisera plus tard sous le nom de bassin sémantique et de typifier l'un des aspects les plus méconnus de l'archétype, dont Jung dit parfois qu'il est comparable au lit d'une rivière, cette vision du Graal allait s'épanouir dans les pages consacrées par Durand au Parsifal de Wagner, dont l'existence atteste à la fois d'une filiation chevaleresque héritée des temps les plus anciens et de la permanence de cet archétype même du religieux qu'est le Graal en des temps marqués par la sécularisation nihiliste. Alors, ni Durand ni Corbin n'adhèrent cependant à la thèse de Heidegger, voyant dans le nihilisme un mouvement historial, une lame de fond venue du tréfonds de l'histoire de la métaphysique occidentale. Ce qu'ils retiennent quant à son origine, corrobore plutôt la position de Nietzsche dans la seconde inactuelle, relative à l'abus des études historiques. Si donc cet avatar du positivisme qu'est l'inflation historiciste est tenu pour partie responsable de la déliquescence de l'être nommé nihilisme, sa liquidation ne prend pas tout à fait la même tournure chez les deux penseurs. Familiarisé de longue date avec cette question pour avoir pénétré la pensée éminemment inactuelle de Heidegger autant que celle des gnostiques iraniens, Corbin tend en effet à penser en termes de subversion ontologique un affrontement dans lequel Durand, plus directement exposé en tant qu'anthropologue aux impasses de l'historicisme, voit d'abord une confrontation, un enjeu éthique plus encore qu'ontologique. Face au déchaînement ultime du Moloch historique, écrit Durand, c'est bien d'un combat qu'il s'agit et de la reprise d'un héritage, d'un combat chevaleresque, c'est-à-dire pour lequel la fin ne justifie pas les moyens, mais est juge et principe des moyens. Et c'est avec la détermination d'un croisé que Durand rendra en 1979 hommage à Corbin d'avoir réhabilité ses gnoses dans lesquelles, dit-il, se configure un surhumain triomphant du nihilisme nietzschéen. Ce que ne précise pas Durand, par contre, c'est que le nihilisme est autant un fait objectif, réductible au constat nietzschéen. Dieu est mort, Dieu reste mort, et c'est nous qui l'avons tué. Qu'une attitude psychique face au nihil, selon qu'il est perçu comme un vide, un néant, un rien, selon aussi qu'il est considéré comme un cul-de-sac où s'abîment l'âme et l'esprit, ou comme une transition historiale, pouvant être vécue comme un sas de décantation et de purification. De ce point de vue, ni Durand ni Corbin n'ont pris en compte le possible auto-dépassement du nihilisme, c'est une expression nietzschéenne, Selbstüberwindung, envisagée par Nietzsche comme étant la seule possible sortie de crise appropriée à la nature même du phénomène, et plus tard méditée par Heidegger, dans Contribution à la question de l'être, dans son dialogue avec Ernst Jünger en particulier, en réponse à Passage de la ligne de Jünger. On peut donc s'étonner que Corbin, traducteur de Heidegger, n'ait pas davantage été sensible à cette forme inédite de veille, et d'autant plus que les penseurs cités eurent eux aussi le sentiment d'être des veilleurs et des chevaliers, œuvrant dans l'ombre à la sauvegarde de l'Occident, la gravure de Durer ayant d'ailleurs souvent été pour eux le fil conducteur de leur méditation solitaire et constitué un lien invisible entre des esprits réfractaires à toute autre forme de collectivité. On en revient donc implicitement à la symbolique de la lutte contre le dragon, plus ambigu qu'il n'y paraît. Transpercé par la lance du chevalier, comme on le voit dans les très nombreuses figurations de Saint Georges, le monstre est-il déjà mort, ou seulement fixé au sens alchimique du terme, rendant possible la transmutation de son venin mortel en puissant remède? Si Durand adhère comme Corbin à cette logique paradoxale, trouvant dans le vers de Hölderlin, repris par Wagner, sa forme sublimée, mais au lieu de péril, du péril croit aussi ce qui sauve, ou bien seul guérit la plaie, l'arme qui la fit. La transmutation escomptée ne semble pas à leurs yeux devoir survenir à l'intérieur même du processus ayant permis l'avènement du nihilisme. C'est là la position de Nietzsche, reprise par Heidegger. Mais au prix d'un détour et d'un apport extérieur, venu ranimer la flamme d'une espérance toujours vive au milieu des cendres encore chaudes. Dans Science de l'homme et tradition de 1975, Durand écrit « Nous allons montrer ici que c'est en Occident lui-même, dans la tradition occidentale, que l'Occident porte son propre recours. » Or, disant cela, Durand ne pense nullement à un auto-dépassement du nihilisme, retirant de la part du penseur un accompagnement du déclin très risqué, mais à la réinstauration de ce qui depuis toujours perdure en chaque homme comme en chaque culture. Aucun modèle de substitution n'est de ce fait capable de réveiller ces puissances endormies qui ne peuvent l'être que par une réappropriation, redonnant tout son sens à l'idée de transmission et donc de tradition. C'est aussi pourquoi le chevalier se doit d'être passeur, au moins autant que lutteur. Quand l'un et l'autre, Corbin Durand, parle de restauration, c'est moins d'un retour pur et simple à la tradition primordiale qu'il s'agit, comme on le voit par exemple chez Guénon, mais que d'un anachronisme plus fondamental encore, au regard duquel chaque homme est susceptible de se connaître plus authentiquement lui-même en se réappropriant un passé immémorial, celui de l'âme en son état originel, auquel il va de ce fait redonner un avenir. Pour être fondamentalement platonicien, ce thème gnostique a été, comme on sait, magistralement réorchestré en islam iranien. Et c'est une nouvelle vie qu'entend lui redonner Corbin, distinguant à cet égard innovation et rénovation. Il n'y a de tradition vivante, écrit-il, c'est-à-dire de transmission en acte, que par des actes de décision toujours renouvelés. Ainsi comprise, la tradition est tout le contraire d'un cortège funèbre. Elle exige une perpétuelle renaissance, et c'est cela la gnose. En ce sens, rénovateur plus que conservateur, le chevalier ne peut se contenter de garder la tradition sans empiéter sur les prérogatives du dragon, sommeillant sur le trésor dont il a pour mission de maintenir l'occultation. Pardon. Prendre conscience, au contraire, que les choses spirituelles sont sous notre responsabilité, comme le dit Corbin, et que toute démission de notre part fait le jeu du nihilisme, donne son vrai sens au combat contre le monstre, dont la mort libère l'accès à ce trésor caché qu'est la possibilité de vivre au présent, ce qui semblait irrémédiablement passé. C'est dans ce même esprit que Durand rédige au fil des années les textes réunis dans « Science de l'homme et tradition », où l'accent est moins mis sur l'herméneutique spirituelle en tant que telle, que sur la récurrence, moteur de toute pensée traditionnelle, et sur les homologies structurelles, permettant de confirmer l'appartenance à la même famille d'esprit de tous les gnostiques d'Orient et d'Occident. Toute la tradition ressurge, dit Durand, au cœur même de l'anthropologie. Or, parce qu'il plonge le monde moderne dans l'obscurité, le nihilisme semble à première vue l'équivalent de l'occultation du pôle salvateur dont parlent les textes exhumés par Corbin. Or, cette apparente similitude ne prend sens que si l'on reconnaît au nihilisme la dimension historiale que lui a restituée Heidegger et nettement moins présente chez Durand que chez Corbin, dont certains des écrits peuvent laisser penser que l'obscurcissement du monde dont parle Nietzsche appelle la répétition du scénario guerrier inauguré par l'islam mazdéen. Ce combat chevaleresque de la lumière contre les ténèbres, trouvant d'ailleurs son répondant chez saint Paul, Éphésiens 6:10, revêtez l'armure de Dieu pour pouvoir résister aux manœuvres du diable. Mais le nihilisme n'appelle-t-il pas, de par sa nature même, d'autres formes de combat? Ou bien n'est-il pas, après tout, qu'une de ces blessures, un de ces déficits ontologiques que la chevalerie zoroastrienne avait justement pour mission de réparer, tout comme les alchimistes réparent eux aussi la création endommagée? Le vrai défi étant dès lors moins dans la gravité de la blessure que dans la cécité du regard, incapable de la percevoir pour telle et l'assimilant à une punition divine ou à un simple accident de l'histoire. Ni Durand ni Corbin ne se sont donc intéressés à l'essence même du nihilisme, perçu prioritairement par l'un comme un iconoclasme réducteur, par l'autre comme un agnosticisme séparateur. Comment l'aurait-il pu d'ailleurs, tout en continuant à se situer dans l'orbite de la métaphysique platonicienne, au sens évidemment large, précise Corbin, jugé par Nietzsche et Heidegger responsable de l'effondrement nihiliste de l'Occident? Comment cette différence majeure d'appréciation des causes profondes et de la nature même du phénomène n'aurait-elle pas entraîné des divergences quant aux armes à employer et aux stratégies à déployer en dépit d'une référence commune à cette chevalerie plus haute qu'autrefois, qui est susceptible de tirer l'Occident de ce mauvais pas. C'est donc très en aval de la bifurcation pointée par Heidegger, disons pour simplifier, entre les présocratiques et Platon, que Corbin situe pour sa part le virage fatal. Et c'est au moment où l'Occident chrétien opte pour l'avéroïsme contre Avicenne, XIIe siècle, et donc dans son sillage pour la pensée d'Aristote, que débute à ses yeux un déclin spirituel qui, permettant l'émergence du monde moderne, allait assurer le triomphe de l'agnosticisme et donc du nihilisme. Cette lecture de l'histoire de la pensée occidentale, Durand va sans réticence aucune la faire sienne, tant elle lui paraît corroborer son propre diagnostic relatif à la montée en puissance de l'iconoclasme, responsable d'un appauvrissement en matière de symbolisme et de l'unidimensionnalité mensongère dans laquelle se complaît le monde occidental, frappé de strabisme, du fait du caractère unilatéral et réducteur du rationalisme, inconscient d'être lui-même l'expression d'une des trois structures de l'imaginaire, la structure diurne. C'est l'imaginaire du Durand qui est premier, et la rationalité n'en est qu'une modalité. Qu'il soit grand temps de rendre la parole aux autres structures, Nietzsche l'avait déjà pressenti en dénonçant dès ses premiers écrits l'hégémonie de l'homme théorique socratique. Durand en radicalise le message en entrant en guerre contre ce monopole idéologique, responsable à ses yeux du totalitarisme des institutions et de la déliquescence des esprits. Entrevoyant derrière tout réductionnisme le spectre du totalitarisme, Durand se montre particulièrement sensible au double visage du nihilisme, dont on pourrait dire qu'il dissocie le noble équilibre de l'opération alchimique « Solve et coagula » sous-jacent à la plupart des grandes réalisations culturelles et spirituelles. A priori plus sensible en tant qu'anthropologue à la faillite de l'imagination créatrice et donc à la dévaluation des images, Durand ne tardera pourtant pas à s'apercevoir que l'iconoclasme qu'il pourfend résulte lui-même d'un agnosticisme, d'une carence gnostique, que les textes arabes et iraniens traduits et commentés par Corbin dissuadent d'associer à un athéisme libérateur, tant il s'agit d'une mutilation ontologique conduisant à une véritable atrophie de l'âme, dont Jung constatait de son côté, à peu près aux mêmes époques, les effets dévastateurs. L'univocité, écrivait Jung dans le Livre Rouge, est unilatérale et conduit à la mort. Mais l'ambivalence est le chemin de la vie. Si le nihilisme est pour tous deux l'adversaire, iconoclasme et agnosticisme en sont les figures majeures. Responsables de défiguration rien moins que mineure, puisque Durand, évoquant la triple mort de Dieu, en se référant à Nietzsche, des civilisations, en se référant à Valéry, et de l'homme, en se référant à Foucault, va jusqu'à parler d'anthropocide et de gigantesque suicide culturel. S'élevant lui aussi contre la survalorisation du mythe prométhéen dans la pensée occidentale moderne, et voyant dans le rapt du feu une rupture du pacte chevaleresque entre l'homme et Dieu, Henri Corbin ne manquera pas, dans Temple et Contemplation, de rendre à ce propos hommage à la clairvoyance de Gilbert Durand. Mais peut-être ces deux vaillants chevaliers ont-ils sous-estimé le fait que ce soit justement là l'effet pervers du nihilisme, impossible à contrecarrer par la seule volonté, puisque le poison revêt tous les signes extérieurs du remède. Se suiciderait-on sans ce brouillage des repères, rendant la vie moins désirable que la mort ? Car le pacte chevaleresque entre membres d'une même fratrie spirituelle tient en islam iranien sa force de ce qu'il a d'abord été conclu entre chaque âme et son Dieu, le Dieu qu'elle a fait sien par un acte d'allégeance qui, loin d'être unilatéral, trouve en Dieu un répondant ignoré des monothéismes purement légalistes. Le Seigneur, je cite Corbin, a besoin de son chevalier pour être manifesté. Celui-ci a besoin de son Seigneur pour tout simplement être. Aussi, ce pacte de solidarité réciproque interdit-il au chevalier, combattant les ténèbres aux côtés de son Dieu, d'être un voleur de feu. ce pacte n'étant lui-même envisageable qu'au sein d'une théologie négative, constituant de ce fait, selon Corbin, le seul antidote possible au nihilisme. Terme qui ne devrait s'appliquer stricto sensu qu'au néant, dit Corbin, dont rien ne procède et où tout tend à retomber et à s'abîmer, un néant inférieur donc à l'être et à la pensée, et non au néant divin d'où tout provient, advient. Tout porte donc à penser que le pacte chevaleresque, conclu dans de telles conditions, concerne les religions abrahamiques et elles seules, quand bien même le bouddhisme mahayana a lui aussi promu chevalier le bodhisattva, héros pour l'éveil au même titre que certains yogis intrépides célébrés par le tantra. Mais c'est là un parti pris philosophique en soi discutable, sous-jacent à la plupart des écrits de Durand et clairement assumé par Corbin. L'autre que l'être, c'est le néant tout court. L'alternative à l'unitude ou solitude divine, c'est le nihilisme. J'en ai bientôt fini. De ce débat théologique interne aux religions abrahamiques, Gilbert Durand a très vite relevé, en anthropologue, le défi anthropologique et épistémologique. S'il est possible que l'unité divine ne réduise pas à un quasi-néant ontologique la pluralité des êtres, l'islam spirituel offre peut-être à l'Occident, devenu hyper-rationaliste, y compris dans ses positions théologiques, le moyen de penser l'alliance de l'un et du multiple en des termes capables de mettre fin à nombre des dualismes suscitant eux-mêmes tant de combats supposés chevaleresques, mais dont le nihilisme qui en est l'émanation a démontré la dangerosité et la vanité. Ressurgit donc une fois encore le nécessaire dépassement de l'attitude héroïque, mais cette fois-ci à travers la transformation du modèle métaphysique qu'il a le plus souvent suscité, encouragé, glorifié. Ce n'est pas à la bravoure que le nouvel esprit anthropologique demande aux chevaliers de renoncer, mais à la bravache, toujours plus ou moins donquichotesque, de qui n'a pas reconnu dans l'unité ce qui, pour se rendre manifeste, appelle nécessairement la pluralité, et dans les opposés une bipolarité, elle-même aimantée par un pôle, diversement nommé selon les contextes, imam, graal, archétype, pierre philosophale. Toute la belle et puissante méditation de Durand sur les tigrures de l'âme et les pluriels de psyché s'enracine dans cette certitude, qu'il est une autre manière, à la fois plus rationnelle et plus sapientielle, de penser la multiplicité dans son rapport à une unité qui, pour n'être pas totalitaire, doit demeurer cachée, mais dont le symbole épiphanise les significations plurielles. Je conclus. L'idée qu'une communauté eschatologique de veilleurs permet au monde, fragilisé par le nihilisme, de continuer à exister, et l'héritage spirituel que nous ont légué Gilbert Durand et Henri Corbin, militant par là même pour une sorte de réarmement spirituel de l'Occident, mais en étroite connivence chevaleresque avec l'Orient des Lumières. C'est donc délibérément que je n'ai abordé ici que les fondements philosophiques de leur pacte chevaleresque, et laisser de côté l'histoire mouvementée de leur engagement commun dans un certain nombre d'institutions initiatiques. Ça, c'est une autre histoire. Je me demande en effet, et c'est sur cette hypothèse personnelle que je terminerai, si la dimension chevaleresque de l'existence humaine, telle qu'ils l'ont si vaillamment défendue, peut encore être pleinement assumée par l'une ou l'autre de ces institutions, ou si l'Occident postmoderne ne restera pas nihiliste tant qu'il n'aura pas retrouvé le sens des grands récits. Je suis délibérément anti-postmoderne de ce point de vue-là. S'il n'aura pas retrouvé le sens des grands récits, capable d'acheminer l'âme vers son pôle, vers cet Orient imaginaire et imaginal, dont l'un et l'autre, donc Corbin et Durand, ont montré qu'il était vain, pour nous autres occidentaux, de le rechercher ailleurs que dans notre vieil Occident, fût-il présentement très décadent. Voilà.